Bienvenue au 10e épisode du podcast Sherbrooke, ma ville. Aujourd'hui, je vous présente une entrevue que j'ai réalisée avec Jason Holley. Il est le propriétaire de l'Escaparium Sherbrooke, jeu d'évasion. Il nous parle des leçons qu'il a apprises depuis le lancement de son entreprise il y a environ 2 ans. On parle aussi de UFC, de poker, de podcast et de paris sportifs. J'espère que vous allez apprécier. Voici l'entrevue. Here we go. 10e épisode du podcast Sherbrooke, ma ville. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir mon bon ami Jason Holley, qui est propriétaire du Escaparium à Sherbrooke. Bonjour Jason, ça va bien?
Bonjour, oui, merci.
Excellent. Premièrement, parle-moi du Escaparium. C'est quoi exactement? Donne-moi ton elevator pitch. Comment tu décris ça aux gens? Je suis sûr que tu vas le faire mieux que moi.
C'est la question qu'on a le plus souvent. C'est vraiment... On la répète 10 fois par jour avec ce genre de business-là parce que c'est vraiment pas connu comme...
Ouais, c'est nouveau.
C'est vraiment nouveau. C'est un jeu d'évasion. On a 4 salles thématiques qui peuvent accueillir de 3 à 8 personnes. Le but général, c'est que vous entrez dans une pièce. Vous avez 1 heure pour résoudre des énigmes, puzzles, de l'observation. C'est du travail d'équipe. Puis le but, c'est de ressortir de la pièce en 1 heure.
OK.
Ça, c'est le concept général. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, les plus jeunes, les plus vieux. Les hommes, les femmes, c'est pas restreint à un groupe, groupe d'âge. C'est à peu près peut-être 75-25, 75% des familles, des amis, puis 25% corporatifs, là, des compagnies qui viennent ici pour faire des activités là, de team building. En semaine, c'est presque juste des groupes corporatifs. Puis les soirs, puis la fin de semaine, là, c'est plus amis, famille.
Nice. Peux-tu me décrire un peu les 4 pièces que tu as ici à Sherbrooke?
Ouais. On a 4 salles. Prison, saloon, centrale nucléaire, puis l'enquête policière. Les 2 premiers qu'on a ouverts, c'est la prison puis le saloon qui ont ouvert pas mal en même temps là, au début de la compagnie, il y a peut-être presque deux ans. Après ça, on a ajouté la centrale nucléaire, puis là, on vient d'ajouter là, Memento, l'enquête policière.
OK, OK. On rentrera pas trop dans les détails, on veut pas donner le punch, c'est sûr que tu veux garder
Ouais, c'est un peu pour ça aussi qu'on met pas de photos, tout ça, ça reste un peu mystérieux, mais il y a quand même une petite description là, sur notre site web. Les salles sont un peu différentes, ils ne requièrent pas tout à fait les mêmes skills non plus d'une salle à l'autre. Il y a une petite description sur Internet là, qui aide les gens à choisir la salle qui est la plus appropriée pour eux.
Alright, cool. On va à la question de début de podcast un peu typique. Parle-moi de ton histoire, c'est où ça a débuté, si on peut commencer avec ton histoire d'adulte, mettons le professionnel.
Adulte, professionnel,
avant l'escaparium un peu, puis comment la transition que tu as faite à l'escaparium?
C'est bon, c'est un parcours un peu, toi tu le sais parce que c'est
parce
qu'on est amis, mais c'est un peu particulier. Je viens de la région du Lac-Mégantic, j'ai fait mon secondaire là-bas au complet. Le but en partant de là-bas, je suis venu ici quand j'avais 17 ans peut-être, là, en appartement pour venir au cégep de Sherbrooke. Puis le plan initial c'était... cégep de Sherbrooke en sciences humaines pour aller à l'université en criminologie après. J'avais quand même des bonnes notes au secondaire, puis pas mal certain que si j'avais voulu faire ça, c'est ce que j'aurais fait. Mais finalement, rendu au cégep, il y a le poker qui est rentré dans le décor à ce moment-là. Ça a commencé vraiment friendly, là, des petites games comme tout le monde, mais ça a évolué, puis de fil en aiguille, ça a été ma job, là, le poker, pendant peut-être 10 ans environ, là, de 20 à 30, disons. Là.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, fait que j'ai vécu du poker pendant peut-être 9-10 ans.
Mais quand même un très bon succès, voyager, t'as vu des choses.
Ça a bien été. Là, j'ai...
Okay. Excellent. Tu peux-tu
nous
dire où est-ce que tu es allé après? La transition, parle-moi de la transition.
Ça s'est fait peut-être 2-3 ans avant de commencer Escaparium, je sentais que le poker, ça s'en venait... Tu sais, ça devient de plus en plus difficile, premièrement, dans le monde du poker, d'en vivre. Là, il faut travailler de plus en plus fort pour garder le même tora, si on veut, là, les mêmes gains et tout ça. Fait que je cherchais toujours quelque chose un peu on the side pour pouvoir peut-être transitionner tranquillement vers autre chose. Puis c'est là qu'Escaparium est venu en compte. On est allé dans un voyage... la première fois que j'en ai joué, c'était à Tempa avec Leslie, ma conjointe, qui est aussi copropriétaire de l'Escaparium. On a joué un jeu à Tempa, puis on a vraiment trippé là-dessus. Puis c'est là qu'on a commencé à faire nos recherches un peu pour savoir si ça existait ici, puis comment comment ça marchait de ce côté-là. Puis il n'y en avait pas à Sherbrooke. Il y en avait une coupe à Montréal, mais c'était pas très populaire encore là, il y a 2 ans. Il y en avait peut-être, je dirais 5-6 à Montréal. Tandis qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y en a une trentaine probablement là, à Montréal. Fait que c'est ça. Il n'y avait rien qui ressemblait à ça ici. On a fait une coupe de recherche, puis un an plus tard, on était ouvert. Puis, le poker, ça a pris un peu le bord. Là, je pensais pouvoir faire les deux au début, mais j'ai vite réalisé que ce serait aucunement possible de travailler à temps plein pour Escaparium puis de continuer à jouer au poker à un bon niveau. Là. Je joue encore pour le fun, mais c'est vraiment pas...
Juste une question qui me vient en tête de même, parce que l'idée d'aller chercher une idée aux États-Unis puis de la ramener ici, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé super intelligent. Puis dans tout, ils sont un peu en avance. C'est-tu quelque chose que tu avais déjà pensé ou c'est vraiment arrivé bam, de nulle part?
On y avait déjà pensé. En fait, ce voyage-là, je l'ai fait avec Jonathan Driscoll, puis sa conjointe, qui sont propriétaires d'Escaparium Montréal puis Laval. Puis lui aussi, dans le fond, il était comme en processus de réflexion pour peut-être... lui, il en avait déjà joué avant qu'on ait à Tempa. L'idée, il était déjà venu. Puis lui, il était un peu plus sérieux dans son cheminement. Il était rendu un peu plus loin dans sa réflexion d'ouvrir ça. Moi, c'était un peu... J'avais aucune idée à quoi m'attendre avant d'entrer dans cette pièce-là, tandis que lui, il avait commencé un peu... à évaluer tout ça. Puis ouais, dès qu'on a joué, tu sais, en rétrospective, le jeu qu'on avait joué, c'était vraiment mauvais finalement. Sauf que vu que c'était la première fois qu'on jouait, moi j'ai vraiment trippé puis j'ai voulu le faire. Sauf que c'est sûrement un des pires jeux que j'ai joué, salles que j'ai joué depuis. Sauf que quand c'est la première fois que tu le joues, puis si t'aimes ça, ben tu t'aimes ça puis même si la salle est moyenne.
Le fait que tu avais Jonathan Driscoll avec toi, est-ce qu'il a commencé l'Escaparium Montréal-Laval avant toi?
Il a commencé peut-être. Montréal, ça vient juste d'ouvrir, là, ça fait quelques mois. Mais Laval, il a ouvert peut-être un 6 mois avant moi. Au début, on a comme brainstormé là, l'idée de faire tout ça ensemble, mais c'est lui qui a. C'est un peu un concours de circonstances aussi. Il a trouvé son local avant moi, puis ça débloqué.
Vous avez fait ça ensemble? Escaparium, c'est une franchise que vous avez avec lui?
Ouais, exact. On a créé Escaparium ensemble, puis on partage les choses qu'on peut partager. Tu sais, le site web, le site de réservation, les trucs comme ça, c'est des trucs qu'on peut partager, mais c'est géré vraiment. J'ai rien à voir avec ce qui se passe là-bas, puis il n'y a absolument rien à voir avec ce qui se passe ici. Là.
OK. Excellent. Good. Si on veut y aller un peu plus personnel, je sais que des escape games, il y en a ailleurs. T'es pas le premier à Sherbrooke qui y a pensé, mais t'es le premier à Sherbrooke qui l'a exécuté. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui fait que toi t'es allé avec ça ou qu'est-ce qui fait que tu l'as bien exécuté?
Ben ouais, en fait, je suis le premier, oui puis non. Là, pendant qu'on était dans le processus d'ouvrir ici, on a appris qu'il y en avait un autre qui ouvrait au centre-ville, mais c'était vraiment plus petit aussi. Au départ, c'était un projet. C'est un projet étudiant, donc c'est pas la même envergure qu'ici, mais bref, ouais, on est les seuls de cette grosseur-là, si on veut. Puis la question, c'était...
Qu'est-ce que t'apportes? Qu'est-ce que toi, personnellement, t'as fait pour que ça soit un succès?
OK, ouais, ben avant d'en ouvrir, c'est sûr qu'on a joué vraiment plusieurs. T'sais, au début, comme je disais, on avait joué celui que je trouvais vraiment bon, mais qui finalement, en rétrospective, c'était pas bon. Fait qu'on a joué plusieurs, puis c'est... Ça, je le faisais aussi, je pense, avant d'avoir une business. On dirait que chaque fois que j'allais quelque part, on dirait que je remarquais des choses qui font pas trop de sens dans une business ou qui... C'était comme un réflexe un peu acquis là, d'essayer de juger un peu pourquoi ils font ça comme ça, pourquoi ils font ça comme ça. Mm-hmm. Puis c'est vraiment avec ça, je pense, que j'ai réussi à créer là, ce que Escaparium est aujourd'hui. Puis ça roule super bien.
On peut dire que t'as fait un bon plan, t'as fait tes devoirs. Puis,
ouais, au début, un plan, tu sais... Quand je lis sur des trucs de business puis tout ça, tout le monde dit à quel point c'est important d'avoir un plan d'affaires, tu sais, structuré puis tout ça. Honnêtement, c'était pas si structuré que ça là. Je mettais ça sur papier puis tout ça. Puis au début, on dirait que je calculais tout pour break even. Tu sais, je voyais pas à quel point ça pouvait devenir aussi gros rapidement. Tu sais, je me disais bon, avec les coûts que ça va engendrer, ça me prend tant de groupes par semaine. Fait que ça, fois 4 par mois pour pouvoir, tu sais, juste arriver even pour pas perdre d'argent dans tout ça, là. Je pouvais pas savoir à quel point ça allait, tu sais, c'est allé vraiment plus vite que je pensais.
Tu voyais au pire, puis...
Ouais, c'est ça, j'essayais de voir
au pire. C'est vraiment le pire, comme on dit, c'est au pire, mais les gens s'attendent pas au pire, là. Ils s'attendent au pire, tu sais, mais c'est pas vrai.
C'est ça, je calculais vraiment tout pour... Je calculais le nombre de groupes que ça allait me prendre dans un mois pour arriver kiff-kiff à la fin du mois. Puis je me disais, bah, c'est... ce serait étonnant que je me rende pas à ce minimum-là. Puis c'est ça qui m'a donné le coup de pied pour starter tout ça.
Puis, fait que tu dis que avant, tu regardais les trucs dans les business qui auraient pu t'aider, tu faisais tes devoirs déjà depuis un bout. Sauf que tu t'en allais dans un autre domaine, au cégep, la criminologie, des trucs comme ça. Le déclic, c'est le poker, c'est sûr qu'il a fait un déclic, mais est-ce qu'avant ça, tu pensais avoir une entreprise quand tu étais jeune ou c'est quelque chose qui ça s'est vraiment développé de même?
Je pense que ça s'est vraiment développé comme ça. J'essaie de repenser comme plus loin au secondaire si je me voyais. Puis honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est vraiment un concours de circonstances qui est arrivé que j'avais du temps, j'avais de l'argent à investir aussi, puis j'ai eu de la bonne idée, puis c'est tout ça s'est arrivé comme en même temps. Puis... Mais en rétrospective, j'ai jamais été non plus... Tu sais, j'aime ça faire mes choses à ma façon, puis tout ça. Tu sais, le poker, c'est ça que ça... Mm-hmm.
Parce que la criminologie, t'aurais pu le faire toi-même dans ta propre entreprise aussi,
j'aurais
pas nécessairement.
Pu aussi, tu sais, il y a plusieurs débouchés possibles avec ça. C'est pas... Tu sais, j'ai pas eu beaucoup de jobs dans ma vie que j'étais sous les ordres de quelqu'un, tu sais, j'ai... Le poker, c'est moi qui gère mon temps. Si je veux jouer 18 heures en ligne dans ma journée, je joue. Si je veux pas jouer pendant une semaine, je joue pas. Puis c'est la liberté de ça que j'aime aussi. Là. Ouais, le poker, c'est ce que ça me donnait vraiment la liberté de faire ce que je voulais, quand je voulais. T'sais, l'argent, ça allait bien, puis c'était le fun, mais j'aurais pas changé ça contre le même salaire dans une job qu'il faut que je réponde à des ordres. Fait que peut-être que j'étais prédestiné là, à avoir une business puis faire
la
des
liberté,
affaires à ma
là,
façon.
Ouais, parce que... un poste où tu as plus de liberté ou plus de responsabilité.
Ouais.
Veux-tu me parler de ce qui est what's next? C'est quoi qui s'en vient pour l'escaparium? Est-ce que tu veux changer des pièces? Est-ce que tu as des annonces à faire?
Mais le but au début, c'était de, même si on remonte, disons, à Noël l'année passée, dans le fond, on voulait passer Noël, parce que Noël, c'est une de nos grosses périodes. C'est la période la plus achalandée, t'sais, novembre, décembre, janvier. Il y a les vacances, évidemment, là, de décembre puis janvier, mais novembre aussi, c'est des parties de bureau, tout ça, team building, deux jours. on est vraiment à plein, puis c'est des mois qui sont importants pour la business. Fait qu'on voulait avoir 4 salles à ce moment-là, c'est le maximum qu'on peut avoir ici, c'est 4, on peut pas agrandir plus que ça. Fait qu'on veut, nos grosses périodes, on veut avoir 4 salles, puis nos plus petites périodes, c'est là qu'on voulait en profiter pour démolir une pièce, puis en faire une autre. Mais finalement, après Noël, on a vu en janvier, février, mars, c'était encore plein, nos salles sont encore pleines. Tu sais, on voyait pas trop l'utilité de démolir une salle pour en construire une autre si elle est encore réservée, tu sais, les fins de semaine, presque 100%.
Vous avez l'intention de garder les salles ici pour l'instant?
Pour l'instant, ouais. Là, vu qu'on était réservé comme ça, on s'est dit, bah, on va commencer à fouiller pour trouver un autre local, peut-être pour en ouvrir un deuxième à Sherbrooke. Puis là, on est dans le processus là, de... On se rapproche d'un deal peut-être, mais on n'est pas pressé non plus. Là. Comme je disais, nos grosses périodes, c'est Noël. Fait qu'ouvrir en ce moment, ça donne pas grand-chose. T'sais, on peut prendre le temps que ça prend cet automne. Puis si ça donne, tant mieux. On ira de l'avant avec ça. Fait que c'est pour ça qu'on ne démolit pas ici. On aimerait mieux peut-être ouvrir d'autres ailleurs. Puis quand ce sera fait, ben là, à ce moment-là, on pourra changer les thèmes ici.
Puis quand on parle de faire ailleurs, ça serait des thèmes totalement différents, évidemment?
Oui, vraiment complètement différents. On aurait de la place si le local qu'on regarde en ce moment convient, puis si celui-là qu'on prend, ben, on aurait de la place pour peut-être 5-6 autres jeux ailleurs.
Cool. Fait que tu as commencé à regarder l'expansion, tu as fait tes devoirs. Ça va bien à date. Peux-tu me parler des quelques points, les leçons que tu as appris à date dans ta journey ici avec l'escaparium?
Ouais, j'ai appris pas mal, mais on dirait que je l'attendais un peu cette question-là, puis c'est dur comme pinpoint qu'est-ce que j'ai appris vraiment, tu sais.
Ouais, mais tu sais, c'est des petits détails qui ont l'air anodins, mais tu sais,
ça touche tellement à tout cette business-là, c'est vraiment fou, là. Tu sais, physiquement, il faut construire, tu sais, il faut designer des pièces dans notre tête. Après ça, il faut les construire, les exécuter, puis tout ça. Puis même quand tu les construis, là, c'est pas nécessairement comme tu pensais que ça allait arriver. Là. On fait des tests avec des groupes, puis ils réfléchissent pas du tout comme tu pensais qu'ils allaient réfléchir. Fait que c'est du travail à recommencer. évidemment, c'est pas, ça s'arrête pas là. L'escaparium, tu sais, on a des employés, fait que c'est de la gestion d'employés, c'est de la paperasse, des papiers, tu sais, c'est vraiment, ça touche tellement à tous les domaines que c'est pour ça que je suis content d'avoir Leslie aussi qui est là, parce qu'on est vraiment complémentaires. Il y a plein de trucs qu'elle fait que jamais je serais capable de faire ça, fait que c'est très bon qu'elle soit là pour ça, là.
Puis quand on parle de building room, c'est vous autres qui faites le gros du travail?
Oui, physiquement, c'est plus Leslie, elle est vraiment manuelle, puis elle aime ça, construire des trucs, puis tout ça. Là, c'est sûr que de plus en plus, on veut engager du monde pour faire ça, parce qu'on peut pas... c'est tout ce qu'on a fait, chaque morceau de chaque pièce qui est dans nos quatre pièces qui est ici, c'est nous autres qui l'a fait, puis qui l'a conçu, fait que c'est vraiment beaucoup de job. Là, pour le reste, ce qu'on peut faire par d'autres, faut apprendre à déléguer, parce que c'est pas quelque chose de naturel pour nous autres. T'sais, on veut vraiment... On dirait qu'on se dit toujours, tant qu'à expliquer ce que je veux faire à quelqu'un puis qu'il le fasse, ben on va le faire, tu sais.
Ouais, ouais.
Mais tu sais, pendant qu'ils le font, on peut faire autre chose, nous autres, de plus... que juste nous autres peut faire, là.
Fait qu'on peut parler d'une des leçons déléguées. Ouais,
on l'a pas encore appris, honnêtement, là.
C'est... Mais ouais, c'est bon. C'est bon que tu dises ça. Ouais. Continue avec ta pensée.
On l'a pas, tu sais... On le sait qu'il faut le faire, là. T'sais, ici, dans ces quatre jeux-là, dans notre première succursale, on l'a pas vraiment appris. T'sais, on l'a appris à la dure, en fait, là, parce que à la dernière, on annonçait une pièce, disons, puis on prenait des réservations pour une date précise, puis on était vraiment pas prêt, là, deux semaines avant, puis on voyait tout le travail qui restait à faire, puis on se disait, bon, ben... Là, les employés, même, nous disaient, si vous avez besoin d'aide, t'sais, les autres, ils voyaient qu'on était comme short dans le temps. Puis ils nous disaient eux autres même, si vous avez besoin, on est là, on peut vous aider. Puis là, nous autres, on était là, ouais, parfait. Mais on arrivait ici, puis on dirait qu'on savait pas quoi déléguer, puis on était là, on va le faire. Puis, mais ça, c'est vraiment, avec ce qui s'en vient en plus, si on veut ouvrir une autre succursale, puis avec plus de thèmes, puis plus grand, là, on n'aura vraiment pas le choix de se faire des plans, puis de déléguer, t'sais, déjà savoir qu'est-ce qu'on nous, on devrait faire, puis qu'est-ce qu'on devrait faire.
T'sais. Ouais, absolument. Créer une équipe, c'est un des challenges.
Ah, c'est vraiment tough, je trouve, là, de déléguer. C'est vraiment la... T'sais, nos employés sont super bons dans ce qu'ils font. Nous, on passe de moins en moins de temps ici à accueillir des groupes, puis à les surveiller, puis à tous faire le travail de tous les jours. Ça, c'est vraiment laissé aux employés là, en ce moment, puis ils font une bonne job avec ça. Mais c'est nous, en dehors de ça, faut apprendre à déléguer des trucs... sur une base régulière. Même juste la paperasse, la comptabilité, puis ça, c'est toute Leslie qui faisait ça. Puis là, on engage un comptable, puis on rencontre des fiscalistes, puis là, tranquillement, on va... C'est eux autres qui vont gérer ça. Là.
Ah, c'est une bataille... c'est pas facile, là, t'sais. On a l'impression qu'on... C'est exactement comme tu l'as dit, dans le fond, tant qu'elle l'expliquait, on va le faire, on va prendre le temps, mais si tu veux duplicate, là, si tu veux multiplier... tes business, tu peux pas tout faire. Puis, c'est sûr que toi, tu le fais à un 10, mais de trouver quelqu'un qui va le faire au mieux, puis tu corriges. Puis, même quand toi, tu l'as fait à ton mieux, il y a quand même des corrections à apporter.
Ce sera pas parfait, même si c'est moi qui le fais.
Ouais, c'est ça. Bon, si tu veux me parler, on a parlé du futur de ta business en particulier, mais pour les escape games, ça s'en va où? Parce qu'on sait que la technologie puis tout, les choses changent. Est-ce que tu vois des trends qui...
Ouais, de plus en plus, on voit, ben, une des choses qui s'en vient, c'est la réalité virtuelle, des salles de jeux d'évasion en réalité virtuelle. Ça, d'après moi, ça va devenir vraiment un gros hit dans les prochains mois. J'en ai testé justement.
Okay.
Ben, je sais qu'il y a des pièces en ce moment qui utilisent la réalité virtuelle pour, disons, une des étapes de leur jeu normal, disons, dans un des jeux comme on a ici. Disons, tu vas arriver, tu vas trouver un casque de réalité virtuelle, tu vas mettre ça, puis ça va te donner une réponse pour autre chose. Je sais que ça existe. Mais là, ce qui s'en vient vraiment de pertinent, c'est les salles au complet de réalité virtuelle. Tu rentres dans une salle, puis c'est juste des murs noirs, tu mets ton casque, puis c'est comme si t'étais dans un nouveau monde. Là.
Dans un jeu vidéo.
Exact, comme vraiment dans un jeu vidéo, que c'est toi qui dois prendre des objets virtuels, puis réaliser des tâches. Puis j'ai eu la chance d'en essayer un... il y a quelques mois, puis c'est vraiment... J'en avais essayé un il y a 2 ans, puis j'étais là... Je pense pas que je serais capable d'avoir ça sur la tête pendant 1 heure, tu sais, c'est comme... contraignant un peu, les images, c'est pas super... Pendant 10 minutes, c'est le fun, mais pendant 1 heure, je pense pas que les gens aimerait ça assez pour que ça pogne vraiment. Mais celui que j'ai essayé il y a une couple de mois, c'était vraiment une coche au-dessus. Puis je pense que ça avance tellement vite dans ce monde-là que de mois en mois, ça va okay, s'améliorer.
Fait que tu penses vraiment que c'est une question de mois ou de quelques années avant que...
Celui que j'ai essayé, je suis certain que ça pourrait fonctionner. Là. Pour une heure, je sais pas. Le jeu que j'ai essayé, c'était une demi-heure. Puis honnêtement, ça passait vraiment vite. Puis c'était vraiment bien fait. Là.
Puis tu as eu l'occasion d'essayer ça où?
À Saint-Louis.
OK.
Excellente question. On est allé dans une conférence, en fait, là... conférence séminaire pour les jeux d'évasion. C'est un peu, en fait, c'est un peu plus orienté maison hantée. Aux États-Unis, le phénomène des maisons hantées, puis tout ça, c'est vraiment, vraiment fort. Là. Ici, c'est pas super développé, mais aux États-Unis, c'est vraiment fort. Puis il y avait une section jeux d'évasion parce que ça devient de plus en plus populaire. Puis il y a beaucoup de propriétaires de maisons hantées qui essaient d'intégrer des jeux d'évasion dans leur business à cause que c'est vraiment. Il y a un boom. Là-dessus. Fait que c'est ça, je suis allé à Saint-Louis avec Jonathan, qui est propriétaire à Laval puis Montréal, sa conjointe, ma conjointe, puis moi. On est allé là pour... ça fait 2 ans de suite qu'on y va, ça dure une semaine à peu près, puis c'est des, comme je disais, des conférences sur différents domaines qui ont tout un lien avec les jeux d'évasion. Puis c'est aussi des expositions, des marchands, des trucs... Tout le monde qui vend des trucs en lien avec le domaine, puis ça, c'est là qu'il y avait un vendeur de... truc de réalité virtuelle, c'est là qu'on l'a essayé, puis c'est vraiment, vraiment cool.
Puis, dans ta tête, toi, la réalité virtuelle, c'est dans les prochaines années, fait que pour ta prochaine location, éventuellement, ou est-ce que tu...
Ouais, on a déjà prévu un espace, justement, pour,
okay, c'est
pour ça. Ça, dans la...
All right, je vois vraiment que c'est proche, parce que moi, dans ma tête, la réalité virtuelle, là, c'était pas si proche que ça, c'était peut-être 5, 6, 8, 10, là, mais toi, tu...
Non, c'est vraiment...
C'est sûr que dans le contexte d'un jeu, c'est plus... J'imagine que c'est plus limité.
Ouais, mais
pas c'est... plus facile à faire, mais je veux dire, c'est pas un jeu vidéo, mettons, complet.
Non, c'est ça. C'est pas...
15 heures.
Là. Exact. Ça, les compagnies qui développent ces jeux-là, c'est dans un cadre de 30 minutes, disons. Fait que c'est bien plus facile à gérer pour eux qu'un jeu vidéo qui... c'est infini, un monde de jeux vidéo. Là.
Ouais, c'est ça.
Tandis que là, même que celui qu'on... Le jeu que j'ai fait, c'était un ascenseur, disons. Fait que c'est vraiment juste... quatre côtés, tu fais une coupe de quelques tâches, quelques puzzles, tu montes d'un étage, t'arrives, c'est quelques... Mm-hmm. C'est vraiment limité, puis c'est parfait comme ça, puis c'était vraiment super, super bon. Là.
Fait que tu nous as parlé d'une conférence à Saint-Louis, puis pour les business, c'est tout le temps bon d'aller dans les conférences. Peux-tu me parler de ce que t'as appris ou ce que t'en as retiré?
Ouais, mais en fait, c'est difficile d'identifier exactement c'est quoi la chose que j'ai appris ou qu'est-ce qui m'a inspiré vraiment. On dirait que ce genre de conférence-là puis de séminaire-là, ça aide vraiment comme à se motiver pour la suite des choses. Là. On est allé là une semaine sans trop d'attente, juste pour voir un peu ce qui se faisait dans le domaine, voir à quoi on pouvait s'attendre pour les prochains mois. Puis finalement, c'est comme le coup de pied, on dirait que ça nous prenait pour décider d'en ouvrir un autre.
Ouais.
Ça motive vraiment. Là. Juste voir ce qui se fait de nouveau, ça donne des idées, puis juste avec les idées qu'on a accumulées ou des trucs qu'on a vus, mais c'est ça qui a...
C'est comme je disais tantôt, quand tu fais un investissement dans toi-même pour apprendre des choses, après ça, tu es accountable, puis faut que tu refasses ton investissement, là, ça te donne la motivation, c'est exactement de ce que tu parles.
Exact. On dirait que tu te dis, ah, je suis pas allé là pour rien, tu sais, je vais en profiter pour mettre à l'œuvre ce qu'on a appris.
Ouais, exactement. Fait que là, on a parlé pas mal d'Escape Game. On va aller... dans d'autres sujets un petit peu plus... toi puis moi, c'est on se voit pas assez, vraiment souvent, mais quand on se voit, c'est dans des termes UFC, souvent.
Ouais,
en fin de semaine, il y a un gala UFC. T'es excité, t'as hâte, c'est un bon gala?
Ouais, j'ai vu... je suis un peu moins sûr que ce que je suivais avant. On dirait que pendant longtemps, on dirait que mes samedis soirs étaient occupés ici. Puis on dirait que c'est le genre de sport que si tu perds le fil de ce qui se passe, on dirait que tu... Pas que tu parles d'intérêt, mais si tu suis pas comme les histoires puis les...
Ouais, ouais.
C'est un peu... C'est pas comme de la lutte, là, mais c'est... T'as tout le temps des backstories un peu, là, de... Puis si t'es moins attentif, on dirait que c'est moins pertinent, mais non, les gros galas, j'essaye de pas les manquer, puis c'est tout le temps le fun, prendre une bière entre chums, puis checker ça.
Ouais, et en fait, ça mène les combats. On a Dos Anjos contre Covington, puis Whitaker contre Romero.
Deux.
2. C'est des combats qui sont super attendus. Vraiment. Peux-tu me décrire les combattants un petit peu? Rapidement. Du mieux.
On recommence avec le premier, disons.
C'est Dos Anjos et Covington.
Ouais, Covington, c'est comme une des nouvelles post-stars, mais tu sais, il est vraiment rising, disons. Puis je pense que ça va être vraiment un bon combat. Puis j'ai vraiment hâte de voir. Puis l'autre aussi, le 2. Je suis pas vraiment un gros fan de Romero, mais Whittaker, je le suis depuis quand même un petit bout. Puis au début, il était vraiment pas connu, mais il était vraiment déjà super bon. Puis j'ai betté sur plusieurs de ses fights quand il était comme underdog, vraiment underdog. Négligé. Vraiment négligé, ouais. Puis il a pas perdu souvent, disons.
Fait que ça a été des bons investissements pour toi.
C'est vraiment le fun de trouver des fighters que tu sais qui sont vraiment, tu sais. Ils ont pas la grosse machine de hype autour d'eux autres qui fait en sorte que tout le monde les connaît puis que les betteurs vont les connaître, qui fait en sorte que les odds vont les probabilités de gagner comme s'égalisent, mais lui c'est vraiment comme il est vraiment solide dans tous les aspects, puis c'est ça qui fait que c'est un bon bet là. C'est le fun de trouver du monde qui sont pas connus puis qui sont vraiment bons, parce que
les gens bêtent sur les qui sont plus connus.
Exact. Chaque fois qu'il se pognait contre quelqu'un de plus connu, il était négligé, mais quand tu suivais ça, tu savais que c'était vraiment quelqu'un de solide. Puis que,
c'est excellent. J'adore ta réponse, puis ça transitionne super bien dans ma prochaine question. Le sports betting, c'est quelque chose que tu as fait au travers de la guerre. La manière que tu m'en parles là, c'est plus un investissement ou c'est plus pour le fun?
Je fais les deux. Il y a des bets que je sais que t'sais, en UFC aussi, au début, le sport était tellement nouveau que je pense que les preneurs au livre, les bookies, ceux qui settent les lignes, en fond, les cotes, ils ont pas plus d'expérience que nous autres. Dans les autres sports, le hockey, le football, tout ça, ça fait tellement d'années que les bookies sont très bons pour mettre les lignes. Puis que peu importe pour qui tu bêtes, en réalité, ça change pas grand-chose parce que la ligne... c'est la bonne ligne. Fait que tu pourrais faire un pile ou face puis bêter sur ce que ça va tomber, puis tu feras pas plus d'argent ou t'en perdras pas plus que si t'avais réfléchi à tout ça, t'sais. Tandis qu'en UFC ou en MMA, le sport est tellement nouveau que si c'est ta passion puis que t'en regardes autant que les bookies, ben ils ont pas vraiment de edge sur toi, parce que comme je disais, c'est tellement nouveau que tu peux avoir une aussi bonne opinion que eux, t'sais.
Good, ça transitionne bien. Ben, c'était juste une petite question de transition. Dans le fond, je sais que tu as déjà investi dans un robot qui pariait pour toi. Tu peux-tu me parler de ça un peu, ce que ça faisait, puis peut-être me donner une anecdote ou deux?
Ouais, ben en fait, moi, personnellement, c'est une longue histoire, mais ça n'a jamais abouti que moi, je mette mon argent là-dedans. Sauf que, j'avais un ami qui faisait de la programmation, puis tout ça, puis que lui, il avait programmé un robot qui pouvait bêter sur différents... En fait, disons qu'il y a 10 sites que tu peux bêter dessus. Mais lui, il analyse toutes les cotes de tous les sites. Puis il pouvait, disons, bêter sur deux sites en même temps puis être sûr de gagner, tu sais.
Okay.
Selon la ligne, peu importe qui gagne, il faisait de l'argent parce qu'il bêtait, disons, je vais prendre 100$ sur un... 100$ sur un combat, disons, deux combattants. Sur un, s'il gagne, il fait 105. Puis sur l'autre, s'il gagne, il fait 105. Fait que peu importe qui gagnait, il allait faire 5$,
tu sais. Ouais.
Sauf que tu peux faire ça à grosse échelle, pour plusieurs sports, puis c'est ça. Fait que ça peut s'accumuler puis aller...
Puis est-ce qu'éventuellement, ce robot-là, il a eu du succès ou tu sais pas?
Oui, il a eu du succès, mais il y a eu aussi des bugs. Fait que le robot s'est mis à bêter sur des choses... fait que c'était pas programmé à la perfection, disons. Puis il y a eu des petites erreurs ici et là qui ont fait que ça a été moins bon que prévu. Mais je me souviens qu'il a bêté sur des... Des fois, ils bêtaient sur des trucs vraiment pas rapport, là, des games de cricket en Australie, genre à 5h du matin, qu'il fallait, si tu voulais suivre l'action, il fallait que tu te lèves à 5h puis que tu streames online sur des games de cricket que tu comprends absolument pas ce qui se passe, parce qu'on connaît pas là, ce sport-là. Mais en ce moment, le robot, il est décédé.
Il est décédé. All right. Rest in peace, robot.
Rest in peace.
Dans le monde du online betting, je sais qu'il y a des gens en ligne qui chargent un frais pour te donner tous leurs trucs. C'est des gens qui sont gagnants sur une séquence. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne? Est-ce que c'est quelque chose que tu as utilisé?
Ouais, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé, mais honnêtement, je pense que c'est rendu de plus en plus dur d'être profitable avec ça. Tous les autres sports, comme je disais, les gros sports, hockey, baseball, tout ça, je pense que c'est presque impossible. Je pense que ceux qui vendent des... En fait, c'est ça, comme tu disais, il y a des gens qui vont vendre des bets. Tu payes un certain montant par mois pour que cette personne-là te dise sur qui better. Je pense que c'est de moins en moins vrai, là. C'est de moins en moins possible de... Je me souviens aussi d'une stat de... Il y a 2-3 ans environ, tu sais. À chaque partie, disons, de baseball, il y a une ligne, disons, 6.5. Puis tu peux better. Est-ce qu'il va y avoir plus ou moins que 6.5 points? Fait que tu peux, comme, better sur le total de points. Puis je me souviens que, il y a 2 ans, je pense, après 1000 parties, il y avait eu, comme, 501 over, puis 499 under. Tu sais, c'est pour montrer à quel point les bookies sont vraiment sur la coche. Tu sais, tu peux pas gagner contre ça. Là. Tu, comme je disais, tu peux flipper un coin, puis décider si tu vas better over ou under, parce que les bookies sont tellement bons que ça change rien ce que tu fais. Tu te fais, tu payes une commission au bout de la ligne, puis c'est tout. Là,
oui, oui, absolument. On a parlé un peu des leçons tantôt, mais tu ne m'en as pas nommé plusieurs. Mais en général, pour être un entrepreneur, c'est quoi que tu as appris? Y a-tu des...
C'est...
L'entrepreneuriat en général.
Ben, faut être motivé fois 1000. Là. C'est vraiment... Si t'es pas prêt à motiver à 1000%, honnêtement, ça te donne rien de commencer là-dedans parce que c'est tellement plus de job que ce que je pensais que ça allait être au début de l'aventure. Que, t'sais, comme je disais au début, je pensais pouvoir continuer à jouer au poker puis avoir ça sur le side, mais on a vite réalisé que ce serait jamais possible. Fait que ça prend honnêtement une tonne de motivation. J'allais dire que ça prend de l'argent, mais ça en prenait pour notre business, mais ça veut pas dire que c'est ça dans tous les domaines. Mais vraiment la motivation, puis faut pas partir ça sur un coup de tête, faut tout calculer ce qu'il faut. Puis c'est un peu ce que le poker m'avait appris aussi. Là, c'est, chaque main de poker, c'est tellement de mini décisions à prendre. T'sais. Puis c'est un peu la même chose en business. Là, c'est, tu prends des décisions, ça paraît pas, mais tu prends des centaines de petites décisions par jour. Puis ouais, c'est ça qui fait en sorte que ça va marcher ou que ça marchera pas. T'sais. On dirait que le poker, c'est ce que ça m'a appris. Là. C'est vraiment d'y aller décision par décision. Je suis vraiment quelqu'un de rationnel en plus dans la vie. Je me laisse pas influencer par mes émotions plus qu'il faut. Là. J'essaie de réfléchir à vraiment toutes les décisions. Puis c'est ça, c'est la somme de tes mini-décisions qui va faire si ça va fonctionner ou non. C'est ça.
Au poker, on parle souvent d'oublier la main et de passer à la prochaine étape. Dans le domaine de l'important. Entrepreneuriat, quand tu prends une décision, est-ce que tu es capable de passer, puis là tu analyses la situation, puis tu reprends une autre décision, ou est-ce que tu ponders là?
Ouais, au poker, il faut vraiment réagir vite, t'sais, fait que c'est différent un peu, tandis qu'en entrepreneuriat, si tu as une décision à prendre, habituellement tu as le temps de peser les pour, puis les contre, puis tout ça. Fait que...
Tu peux vraiment venir à une décision qui est éclaircie,
exact,
pas émotionnelle.
Ouais. Exact. Pis c'est vraiment ce que ça m'a amené là, de. Penser à toutes les décisions en termes de est-ce que ça va être profitable, ça, tu sais. Au poker, c'est vraiment, comme je disais, tu prends des centaines de décisions quasiment par main, tu sais, c'est des décisions. Tandis qu'en entrepreneuriat, t'as plus le temps d'y penser, fait que je pense que ça, c'est ce que ça m'a appris, là, calculer le tout en termes de profitabilité. Exact, c'est ça.
Exact, good. Une petite question un peu left field, un peu plus d'intérêt personnel. Tu peux-tu me dire est-ce qu'il y a quelque chose qui t'obsesse? Est-ce qu'il y a quelque chose que, tu sais, ça peut être une émission de télé, ça peut être un site, ou ça peut être un joueur de sport, un combattant de MMA, y a-t-il quelque chose que t'es obsessed about right now qui attire ton attention, puis que ça fait pas mal de sens que tu dédies ton temps à ça, mais un jeu sur ton téléphone, peu importe?
Qui m'obsesse?
Ou tu peux dire que t'écoutes bien gros des podcasts?
Ouais, j'avoue, c'est bon. On a parlé tantôt, hein, des podcasts, honnêtement. J'écoute pas de musique, tu sais, fait que on dirait que tout le monde dans leur auto écoute de la musique, ou à la maison, ils font quelque chose, écoute de la musique. Moi, c'est vraiment juste des podcasts. Même quand j'écoutais la radio, quand les podcasts étaient moins populaires, j'écoutais la radio parler, tu sais. J'écoutais pas de musique. Puis les podcasts, c'est encore mieux que la radio parler, parce que ça, t'écoutes ce que tu veux, quand tu veux, tu sais, tu poses quand tu veux, tu fais ce que tu veux, puis il y en a tellement, tu sais, tous les domaines, ils ont une multitude de podcasts que tu peux écouter. Moi, ce que j'écoute plus, c'est des podcasts de sport. On a parlé un peu de UFC et tout ça. Donc, j'écoute des podcasts de combat, de combattants. J'écoute des podcasts de basket, de sport en général, même de jeux d'évasion, ça existe.
Okay, il y a des podcasts de jeux d'évasion?
Ouais, il y en a deux, trois. Il y en a deux que j'écoute. Ben, un que j'écoute à chaque fois, puis l'autre, je décide selon le thème qui est abordé, parce que c'est ça qui est le fun aussi. Là. C'est pas parce que t'aimes un podcast que t'es obligé d'écouter tous les épisodes.
Ah, absolument.
Un de mes préférés, c'est Joe Rogan Experience, que c'est un des plus connus aussi, j'imagine. Je sais pas s'il y a un top. Il doit avoir un top 10 de.
Ouais, il y a une liste, là. Un top 100.
Ça doit être, il doit être dans le top, j'imagine, parce que c'est tellement gros que. Mais c'est ça, tu sais, lui, il en fait quoi, deux par semaine, trois par semaine, puis c'est des podcasts de 3-4 heures. Fait que c'est sûr que j'ai pas le temps d'écouter tout ça, mais tu peux descendre la liste, puis lire un peu sur l'invité, puis si ça t'intéresse, tu le lis.
Ouais, c'est,
tu l'écoutes, je veux dire.
C'est vraiment ce qui est intéressant avec les podcasts, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, puis tu sais.
Vraiment.
Comme là, un podcast d'Escape Game, là, c'est assez précis. Puis tu sais, tu dis pourquoi je me partirais un podcast d'Escape Game, là, mais tu sais, il y a quelqu'un quelque part qui va l'écouter, puis.
C'est ça. C'est sûr que si tu dis je vais partir un podcast d'Escape Game pour les habitants de Rock Forest, ben là, tu te limites un peu. Mais un podcast, c'est planétaire, là. Eux autres, tout le monde qui aime les jeux d'évasion, tu t'adresses à 1% de la population, mais à l'échelle mondiale, tu sais, qui peuvent écouter ce podcast-là. Fait que c'est sûr que c'est le fun. Là.
C'est une très bonne manière de créer du média.
Ça, je te fais confiance là-dessus, là, je te crois. Puis d'ailleurs, j'écoute ton podcast religieusement. Les 7-8 épisodes, t'es rendu à
10. On est au 10e.
J'ai tout écouté, puis je trouve ça vraiment cool. Puis c'est le fun de voir la progression aussi. T'sais, au début, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis tout ça, fait que j'étais intéressé de voir ce que t'allais faire. Puis au début, je vois pas que ça paraissait que c'était premier, mais il y a une couple de trucs que je suis mais... ça, je ferais peut-être ça. Ça, c'était peut-être pas.
Ouais, non, mais c'est une courbe d'apprentissage. Ben, vraiment, comme même là, on est encore le 10e. Là. C'est un petit bébé, puis moi, je fais juste ça pour apprendre, puis c'est créer du média.
Mais t'apprends vite, justement. Je trouve que de plus en plus, je trouve que ça a l'air de plus en plus professionnel. Puis je sais pas si t'es plus préparé pour tes entrevues.
C'est sûr
là,
que qu'est-ce que t'étais. J'apprends, puis on arrive avec des questions un petit peu plus. Puis tu sais, le cœur de mon podcast, c'est vraiment d'aller chercher la clé du succès en business, en affaires. Qui a apporté les gens leur histoire. J'ai pas 12 000 questions, souvent ça s'en vient au même, mais les gens peuvent prendre ça de gauche à droite. Avoir du succès, c'est, tu peux le dire, c'est de l'exécution, puis tout le monde l'exécute d'une façon différente.
Ben, tu fais bien ça.
Good, merci. ça va être tout pour le podcast aujourd'hui. Je te remercie énormément, Jason. Peux-tu nous dire où vous êtes situé ici à Rock Forest, l'Escaparium?
Oui, on est situé au coin de Boulevard Bourque et Président Kennedy au pied des boules d'eau à Rock Forest, pour ceux qui ça peut se situer, en face du restaurant Jacko. Puis on parlait de la deuxième location tantôt. Si ça a lieu, ça va être près du centre-ville, un peu plus dans l'est qu'ici.
Alright, good. Puis si les gens veulent te rejoindre?
Oui, il y a plusieurs façons en fait. Là, si vous voulez en apprendre plus sur Escaparium, il y a notre site web évidemment, escaparium.ca/Sherbrooke. Vous pouvez, on a parlé des salles tantôt, on le disait aussi, vous pouvez aller lire un peu sur chaque salle. C'est vraiment différent d'une salle à l'autre. Il y a des niveaux de difficultés différents. C'est expliqué un peu aussi sur le site web. Puis sinon, par téléphone ou par texto, 819-434-2901. Vous pouvez réserver par courriel aussi, sherbrooke@commercialescaparium.ca.
Sinon, les gens peuvent te trouver sur Facebook, Instagram.
Facebook, Instagram, ouais, Sherbrooke, Escaparium Sherbrooke, dans les deux cas. Puis d'ailleurs, on veut essayer d'être un peu plus actif là-dessus dans les prochains mois. Là. En ce moment, on publie nos annonces, puis on publie les photos de chaque groupe qui vient ici, mais on va essayer de progresser un peu plus. Là. Surtout si on change des pièces, on veut peut-être essayer de montrer là, le processus de destruction d'une pièce. Ça, c'est pas très pertinent, mais le reste, l'évolution, partir d'une pièce vide puis faire...
Builder la pièce, c'est sûr.
Du début à la fin.
Je crois en ça énormément, de raconter l'histoire. C'est quelque chose... Je pense que c'est la leçon de ma semaine, fait que j'adore ça que tu me laisses la plugger ici à la fin, mais tu sais, ce que vous faites, là, il y en a plein, il y en a d'autres, c'est ce qui est bien, mais il va en avoir d'autres, mais de raconter votre histoire, c'est ça qui va vous démarquer des autres. C'est souvent, je fais affaire avec des compagnies, c'est comme un terrain de golf ou des trucs de même, là, les terrains de golf, c'est toute la même affaire, une compagnie de toiture, c'est toute la même affaire. Là. Le service qui est pratiquement le même. La manière qu'on peut se démarquer du lot, c'est vraiment en apportant notre personnalité. Puis, tout le monde veut montrer son produit. Mais ce qui se passe en arrière de la scène, c'est ça qui va attirer les gens, qui vont vous aimer puis qui vont penser à vous.
Puis même moi, en tant que client, c'est quelque chose qui m'intéresserait, tu sais, de voir comment ça a été construit de quasiment d'une page blanche jusqu'à devenir une pièce physique immersive, tu sais, qui... Fait que c'est le fun pour ça, là.
Ouais, absolument. Bon, j'adore ton idée, puis je t'encourage à faire le plus de médias sociaux possible.
Faudrait que je trouve une bonne compagnie, là, de médias.
Ben, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je pourrais t'en parler. Cabana Media 2.0.
C'est là que je te fais une passe à la palette.
Je t'ai mis ça dans le corner.
Yes.
All right, ben, thank you, Jason. J'ai vraiment apprécié ton temps, ton espace, puis vraiment ton temps, puis ce que tu me donnes ici, c'est... Je l'apprécie énormément.
Ça fait plaisir, puis surtout, comme je dis, on est des amis et tout, fait que c'est vraiment pas stressant de jaser de ça, puis je suis bien content si ça peut t'aider. Puis ceux qui regardent des podcasts juste parce qu'ils me connaissent ou qui l'écoutent juste parce qu'ils me connaissent puis qui veulent entendre ce que j'ai à dire, ben n'hésitez pas à aller à scroller down et à aller écouter les autres. C'est vraiment, vraiment cool.
Alright, j'apprécie énormément.
Yes.
Thank you, man.
Pas de trouble.
À prochaine.
Yes.
Merci tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. Après l'épisode, j'ai pris le temps de faire le tour avec Jason, puis ça a l'air vraiment malade. Leurs deux nouvelles pièces, c'est juste trop bien fait. La centrale nucléaire et Momento, l'enquête policière, pour vrai, ça a l'air vraiment intéressant, vraiment intriguant. Ça a l'air vraiment difficile aussi. Je recommande à tout le monde d'essayer ça au moins une fois. Et finalement, avant de terminer, je voudrais dire un gros félicitations à Jean-François Grégoire, qui a été le deuxième invité sur mon podcast, l'épisode 3. Il a été nommé assistant entraîneur avec le Drakkar de Baie-Comeau dans la Ligue junior majeure du Québec. Félicitations Jean-François et bonne chance avec ça. Merci d'avoir écouté le podcast Sherbrooke ma ville aujourd'hui. Si vous avez apprécié, vous pouvez nous suivre sur les plateformes iTunes ou sur Anchor.fm. Je travaille aussi pour que ça soit disponible sur Google Play. Sinon, vous pouvez trouver un lien pour tous les épisodes sur la page de Cabana Media 2.0 sur Facebook. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram ou sur Snapchat. J'apprécie énormément de connaître votre opinion.